Bonjour, vous êtes sur Plan B. Aujourd'hui, je reçois Vera Nikolski. Bonjour Vera.
Bonjour.
Vera, tu es docteur en sciences politiques et normalienne. Aujourd'hui, tu es haut fonctionnaire dans la fonction publique parlementaire. Donc, tu as une assez bonne connaissance de comment fonctionne notre démocratie. Ce n'est pas tout à fait le sujet pour lequel je t'ai fait venir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler de ton livre paru l'an dernier, Féminicène. Vraiment, je pèse mes mots, c'est depuis 20 ans que je lis des livres sur le sujet des limites planétaires, c'en est un qui est important. C'en est vraiment important, parmi les lectures importantes que j'ai eues sur le sujet. Le terme de collapso-féminisme m'est venu en le lisant. Tu le dis toi-même hein, dans ton livre, c'est-à-dire les gens qui s'intéressent aux limites planétaires, aux risques d'effondrement, type Meadows, Club de Rome, s'intéressent peu au féminisme. Et inversement, les féministes s'intéressent peu aux questions de physique, de limites planétaires et de risques d'effondrement. Donc tu es là pour faire le lien. C'est un livre avec beaucoup de logique finalement, ça coule de sens. Ça m'a vraiment passionné. Donc bravo pour ça. Tiens, en parlant de féministes, tu es aussi pratiquante d'arts martiaux, championne d'arts martiaux. Donc voilà, faut pas trop t'embêter, je pense.
Ancienne pratiquante, effectivement, assez intensive.
Ouais, bon, en tout cas, je pense que tu me mettrais à terre et j'ai pas intérêt à voilà. Écoute, Vera, en fait, première question, tu fais ce que tu veux avec. Est-ce que tu es collapso-féministe?
Déjà, merci beaucoup, Cyrus, pour l'invitation. Je suis très honorée. Alors, la formule m'a fait sourire, collapso-féminisme. Pourquoi pas? Alors en fait, ça dépend ce qu'on. Déjà pour féministe, oui, même s'il y a des précisions à apporter à ce concept, mais je pense qu'on va y revenir. Et pour la partie collapso, alors tu as raison de dire que ce livre cherche à croiser deux thématiques qui sont très rarement mises en rapport. Collapso, c'est un mot qui est, comment dire, très chargé, assez polémique. Il y a des gens qui s'échinent sur. Autour de ce concept, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Tout dépend de la manière dont on le définit, évidemment. Si on appelle collapso des gens qui prophétisent la fin du monde pour telle date et qui s'y préparent en se barricadant dans des bases autonomes durables, etc., façon survivaliste, non, je ne suis pas exactement collapso. Après, si par collapso on entend la possibilité d'envisager une forme ou une autre d'effondrement, définie très simplement comme une contraction importante de nos ressources et donc du produit industriel par tête, du produit alimentaire par tête, un peu à la manière du rapport Meadows, donc plutôt sous une forme de mise en garde et d'exploration des hypothèses que de prophéties concrètes. Dans ce cas-là, oui, bien sûr, je fais tout à fait partie des gens qui envisagent et qui pensent qu'il faut pouvoir envisager ce type de scénario et qu'il est très important de l'envisager parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de signaux d'alarme qui montrent que ce scénario n'est pas exclu. Et donc, il doit être considéré très sérieusement. Voilà. Donc oui, ça me
Et
va,
pardon.
effectivement, dans la volonté de lier les deux et de montrer que cette perspective va avoir des conséquences très importantes pour les femmes, qui ne sont pas souvent envisagées.
Voilà. Et c'est là, je pense, que ton travail a quelque chose d'unique et qu'on n'a pas l'habitude de lire et de débattre. C'est que parmi les conséquences de, on va dire, ce déclin ou effondrement, il y aurait la perte de tous ces droits acquis par les femmes. On va y revenir, mais pour ça vaut le coup ce que tu fais dans les premiers chapitres de dire mais d'où vient cette émancipation des femmes? Et tu re-questionnes l'idée selon laquelle c'est le résultat de luttes féministes qui ont obtenu des avancées, mais c'est pas le fond de la chose. Donc est-ce que bah, tu peux expliquer déjà, même en revenant, enfin, tu reviens aux origines, où ça appelle à se questionner, c'est quelles que soient les sociétés qu'on regarde dans le monde, de manière assez universelle, ce sont toujours les hommes qui chassent. La domination masculine, c'est quelque chose qui est quasi universel, qu'on retrouve dans absolument beaucoup de sociétés, des plus petites aux plus grandes civilisations. Donc, quoi, ça veut dire que avant le 19e siècle, les féministes étaient paresseuses et n'allaient pas se battre. Enfin, ça n'a pas trop de sens. Donc, tu questionnes déjà aux origines sur ce point-là.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on observe quelque chose qui est un invariant anthropologique, tu l'as dit, dans toutes les sociétés primitives, on observe une division sexuelle du travail avec une division des tâches standard où la chasse au gros gibier est accaparée par les hommes ou confiée aux hommes, parce qu'accaparée, on m'a parfois fait ce reproche, c'est pas forcément que les hommes se sont accaparés la chasse, mais il est vrai que ce sont les hommes qui la pratiquent, socialement parlant, en tant que règle. Les femmes qui s'occupent plutôt de la cueillette, du soin des enfants, etc. Et puis, dans toutes les sociétés historiques, par la suite, on observe un certain degré d'inégalité entre les hommes et les femmes. Là aussi, il faut faire attention, ce n'est pas homogène. Il y a des sociétés plus ou moins inégalitaires. Certaines sont très oppressives pour les femmes, d'autres un peu plus permissives. Mais on n'a jamais observé, jusqu'à la période la plus récente, de sociétés réellement égalitaires entre les hommes et les femmes. Donc, c'est une espèce d'invariant préhistorique, historique, anthropologique certainement, et quelque chose qui est aussi universel demande une explication convaincante. Donc effectivement, il me semble
Tu dis que
que
cet invariant, déjà, il est troublant pour certaines féministes. C'est troublant comme
cet
constat
invariant
de
est
se dire non,
troublant pour les
mais
féministes. Alors,
ça.
il est troublant et pas troublant. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un phénomène qui va un peu dans leur sens, puisqu'elles insistent justement sur la force du patriarcat dans l'histoire et la nécessité de le renverser, etc. Donc d'un côté, ça va dans leur sens, mais de l'autre côté, ça les dérange parce que l'absence de toute organisation différente semble suggérer qu'il y a là quelque chose de, comment dire, avec une part d'inné ou de biologique, ce qui est une idée fortement perturbante pour effectivement la plupart des courants féministes. Alors moi, je ne pense pas du tout que cette idée doivent être perturbantes. Ce n'est pas parce qu'il y a des déterminants à la base matériels ou biologiques ou anthropologiques forts qui font que nous avons cet invariant anthropologique de l'inégalité entre les sexes que, à l'avenir, la situation ne peut pas changer. Au contraire, en fait, je reviens aux sources, je reviens à Simone de Beauvoir, et puis bon, bien sûr, on recherche en anthropologie, qui montre que effectivement, à la base, il y a une différence biologique entre les hommes et les femmes qui est liée tout simplement au fait que nous sommes une espèce sexuée et que le processus reproductif de l'espèce humaine, eh bien, distribue les tâches de façon très inégale entre les hommes et les femmes. C'est la femme qui supporte tout le poids de la procréation. Et comme elle supporte tout le poids de la procréation, ça accapare une grande partie du temps biologique, du temps, pardon, biographique qui lui est imparti dans la vie. Donc une grande partie de sa vie passe à soit être enceinte, soit s'occuper des tout petits enfants, qui dans des conditions pré-industrielles nécessitaient la présence de la mère, parce que surtout dans les sociétés primitives, le lait artificiel
L'allaitement aussi.
pas plus que les frigos, c'est ce
Voilà,
que je veux
ça
dire.
prend
Voilà. Et
beaucoup, ouais.
donc l'allaitement était une fonction essentielle pour la survie des enfants et très longue. Et donc
Et puis je pense que quand tu
cette
dis
prédiction de
qu'elle
la
passe beaucoup de temps enceinte, faut se projeter un peu. C'est faire 4, 5, 6, 7, 8 enfants pour que la
Oui, tout à
moitié à
fait.
peine survive à l'âge de 5-10 ans. C'est beaucoup
Exactement.
d'années passées
C'est-à-dire
à être
que dans le
enceinte.
paléolithique, le nombre d'enfants n'était pas forcément de 10. C'était plutôt des sociétés où l'intervalle entre deux grossesses était de l'ordre de 4 ans. Mais ensuite, avec le passage au néolithique, ça passe à, oui, on se rapproche d'un intervalle d'un an. Donc, c'était vraiment des grossesses très rapprochées. Mais dans tous les cas, ça implique une mobilité réduite, une force physique aussi fluctuante, avec des hauts et des bas. Tout un ensemble de facteurs qu'il faut. Et puis la nécessité d'être près du foyer, parce que, encore une fois, les petits-enfants qui sont allaités ou le fait d'être enceinte, ça interdit évidemment les très grands déplacements, comme la chasse au gros gibier, qui impliquait des déplacements de plusieurs jours, etc. Donc tout ça fait que cette organisation, cette distribution sociale des tâches était logique, était rationnelle pour absolument toutes les sociétés confrontées à un rendement du travail très faible, à un environnement hostile, difficile, dans lequel il fallait survivre. Donc, il s'agit avant tout d'une organisation qui marche et qui permet à ces groupes de survivre. Après, le problème, c'est que l'espèce humaine n'est pas que rationnelle, elle n'est pas faite que pour la coopération, il y a aussi des logiques de domination et de rivalité, etc. Et le fait est que la chasse impliquant le maniement des armes, ce sont les hommes qui possèdent ces armes, ce sont les hommes qui également s'occupent de la guerre et de tout ce qui concerne la violence, pour les mêmes raisons. Et évidemment, lorsque vous possédez des armes et que vous vous occupez des choses liées à la violence, eh bien, il est beaucoup plus facile pour vous d'avoir un rapport de domination avec un autre groupe qui ne s'en occupe pas et qui a plus de fragilité physique et qui est moins mobile, qui est confiné au foyer, etc. Donc, ces logiques de domination probablement sont présentes dès le départ, sous une forme ou une autre. Et probablement, elles ont aussi été renforcées par le passage néolithique, la sédentarisation et l'immobilisation accrue des femmes à ce moment-là, avec l'élévation du taux de fécondité. Voilà, et donc effectivement, ces conditions différentes d'existence, c'est vraiment, on est au niveau des conditions ontologiques presque, c'est vraiment les conditions d'existence des hommes et des femmes qui étaient très différentes durant toute l'histoire de l'humanité jusqu'à l'époque industrielle, avec cette différence dans le processus reproductif qui déterminait cette différence. Et c'est tout cet ensemble de différences, de handicaps, on va dire, pour les femmes, du point de vue de la mobilité, de la disponibilité pour les autres activités sociales, qui vont être remises en question par l'entrée dans ce qu'on appelle l'anthropocène, par la révolution industrielle et la transformation majeure du monde matériel que l'entrée dans l'anthropocène va provoquer.
Oui, bah, ça fait la transition vers la question suivante. Mais je vais apporter un dernier exemple sur, comment dire, le désavantage biologique qui, on va dire, explique la hiérarchie des sexes que tu viens de développer. Rien que la question des règles et l'invention du tampon. Et donc, ça fait la transition vers ce dont on va parler. Donc, rien que ça, il faudrait qu'on a un peu perdu de vue ce que ça représentait. Alors, on a parlé grossesse, d'allaitement, s'occuper des enfants, mais à quoi se rajoute quelque chose comme les règles qui aussi, voilà.
Oui, bien sûr, qui tous les mois peuvent occasionner non seulement des désagréments, mais aussi une diminution de la force physique ou des douleurs, etc. D'ailleurs, c'est assez curieux parce que souvent, des femmes progressistes, féministes, qui mettent en avant l'importance de s'occuper de ces questions aujourd'hui. Par exemple, on va se battre pour la reconnaissance de l'endométriose, on va se battre pour imposer un congé menstruel pour des femmes qui en souffrent, etc. Ce seront souvent les mêmes qui vont, dans une autre conversation, essayer de démontrer qu'il n'y a aucune différence physique entre les hommes et les femmes et qu'il n'y a pas de différence biologique qui justifierait quoi que ce soit. Alors, c'est un peu contradictoire, parce que c'est effectivement une donnée physique majeure qui affecte les femmes et qui n'affecte pas les hommes. Et comme tu le dis, il faut réfléchir, il faut essayer de s'imaginer ce que c'était dans un monde dénué des produits de confort dont on bénéficie aujourd'hui. Donc j'essaie d'en donner un petit aperçu dans le livre. Donc effectivement, lorsqu'on ne disposait ni de tampons, ni de serviettes hygiéniques, ni de rien de ce genre, ni de doliprane d'ailleurs pour diminuer les douleurs, il faut imaginer ce que ça faisait comme handicap mensuel chaque mois pour une femme.
Oui. Donc il se passe un truc au 19e siècle avec une multiplicité de révolutions. Technologique, médicale, énergétique. Je ne sais pas si tu en parles tant, il y a aussi une révolution agronomique au 19e siècle, notamment en Europe. Alors là, je fais référence par exemple au livre de Frédéric Danhé, Le Sol. Donc à l'époque, sur l'agriculture, ce n'était pas encore la révolution des machines, des engrais, des pesticides, etc. C'était une révolution agronomique, par exemple, avec l'assolement quadriennal. Bon, vous pouvez faire vos recherches, mais voilà, qui diminue l'insécurité alimentaire aussi. Donc, par cette conjugaison de révolutions, même si tu fais un focus en particulier sur le progrès médical et la révolution énergétique, donc en l'occurrence celle des énergies fossiles, bah, qui change tout, qui change absolument tout. Alors, les hommes y gagnent, quand même, parce que voilà, les hommes aussi y gagnent, mais les femmes y gagnent encore plus et acquièrent tout un tas de droits sans effort. En quelque sorte, sans lutter. Alors, il y a eu des luttes qui ont obtenu des choses, mais l'essentiel de ce qu'elles auraient obtenu, c'est grâce aux révolutions que je viens de mentionner. Je te laisse poursuivre et être probablement plus pertinente que moi, mais voilà.
Oui, d'ailleurs, on revient à ce par quoi tu as commencé la conversation, c'est-à-dire la question des luttes. Il est vrai que le récit, alors on ne va pas dire officiel, mais le récit dominant, celui qu'on a le plus souvent l'occasion d'entendre sur l'émancipation des femmes, insiste surtout sur l'importance des idées, les idées progressistes, les idées des Lumières, leur diffusion, l'idée d'égalité qui infuse la société et qui, grâce aux luttes, aux combats, à la mobilisation de certaines femmes et de quelques hommes, permet au bout d'un moment d'amener la société à l'idée que eh bien, l'égalité ne concerne pas que les hommes citoyens, la femme aussi doit y participer, la femme est l'égale de l'homme, et donc qui permet les avancées législatives qu'on connaît. Alors ce n'est pas faux, comme tu l'as dit, mais c'est très incomplet. Et c'est très incomplet, d'une part, parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi ces idées commencent à émerger uniquement à ce moment-là. Et puis, on ne comprend pas non plus comment elles arrivent à s'imposer, parce que même si l'idée d'égalité entre les citoyens, oui, effectivement, est présente dans le sillage des Lumières, eh bien, l'égalité des hommes entre les hommes et les femmes est très longtemps restée une idée complètement minoritaire. Il n'y avait pas du tout le gros de la population ne la partageait absolument pas, ne s'y intéressait pas spécialement. Et les combats des proto-féministes, qu'on n'appelait pas encore ainsi d'ailleurs, étaient des combats très isolés et des combats de basse intensité, comme je le dis dans mon livre. C'est-à-dire, il n'y a
Oui,
pas eu de grand
il cite
blocage.
Olympe de Gouges qui est une figure du féminisme, mais en vrai c'était dans un assez petit milieu, c'était pas une émancipation de masse.
Voilà.
Enfin, je te laisse poursuivre, mais oui.
Oui, tout à fait, exactement. C'était des figures marquantes, des figures très courageuses d'ailleurs, de femmes qui ont essayé de décrire ou de sensibiliser l'opinion sur ces questions. Mais elles étaient très isolées, elles n'étaient pas du tout écoutées ni suivies. Et surtout, les femmes en tant que groupe, en tant que, je sais pas, en tant que classe, si l'on veut, ne disposaient d'aucun moyen de pression sur les dominants, entre guillemets, en place, donc on va dire les hommes. On peut le comparer aux luttes sociales. Les luttes sociales non plus ne sont pas uniquement le produit de luttes, à mon avis, mais n'empêche que dans les luttes sociales, on voit très bien le moyen de pression dont disposait le prolétariat face au patronat. Quand vous faites une grève générale, vous bloquez les moyens de production, eh bien, le patronat, tout de suite, a mal au portefeuille. Donc vous avez un réel moyen de pression qui, d'ailleurs, a beaucoup été utilisé. Si vous pouvez mettre dans la rue des centaines de milliers de personnes qui font une très grande manifestation, qui menacent l'ordre établi, eh bien, vous avez un moyen de pression. Si vous êtes un pays occupé ou colonisé, si vous pouvez prendre les armes et par les armes combattre pour la libération de votre territoire, eh bien vous avez un moyen de pression. Les femmes prises en tant que groupe n'avaient aucun moyen de pression, ni économique, parce qu'elles ne travaillaient pas à l'extérieur, elles ne disposaient pas d'autonomie financière, ni de blocage, parce qu'elles ne, encore une fois, elles ne travaillaient pas à l'extérieur, donc qu'est-ce qu'elles pouvaient bloquer? Et puis elles ne l'ont pas fait, surtout. Il n'y a pas eu d'action de ce genre. Elles n'ont pas pris les armes non plus. Donc on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est vrai que il me semble que se tourner vers des conditions plus matérielles, plus structurelles, des changements plus structurels de nos sociétés, permet de comprendre pourquoi ces idées émergent, pourquoi ces idées prennent de l'importance et pourquoi surtout elles ont du succès. Et donc à mon avis, effectivement, il faut s'interroger sur toutes les conséquences de ce mouvement absolument formidable de changement qu'a impulsé la révolution industrielle. Tu l'as dit, avec la croissance économique exponentielle qui a démarré à ce moment-là, tirée par le recours massif à l'énergie, aux énergies fossiles, charbon, puis ensuite pétrole, plus tard gaz, et puis le nucléaire pour finir. Au XXe siècle, qui a encore donné un coup de fouet à cette croissance formidable et qui a permis un progrès technologique cumulatif et une transformation générale de nos conditions de vie matérielles. C'est-à-dire que le monde matériel dans lequel nous vivons aujourd'hui n'a plus rien à voir, littéralement, avec celui dans lequel vivaient nos ancêtres, pas si longtemps, pas il y a si longtemps que ça. Il y a 200 ans à peine, la vie quotidienne des hommes et des femmes, et moi c'est les femmes surtout qui m'intéressent dans ce livre, n'avait rien à voir avec la vie que nous menons aujourd'hui. Et à mon avis, donc j'essaie de le montrer dans le livre, ces changements matériels ont à la fois permis aux femmes de se rendre disponibles pour les autres activités sociales dont elles étaient tenues à l'écart jusque-là, et d'autre part, ont provoqué une demande de leur investissement dans ces activités. Donc c'est la rencontre de leur disponibilité nouvelle et de cette demande en face qui a fait, en fait, qui a lancé ce mouvement d'émancipation. C'est-à-dire que ça explique pourquoi ces nouveaux droits, ces changements de statut leur ont été octroyés avec une telle facilité, entre guillemets, facilité, attention, évidemment pas au niveau individuel. Comme je l'ai dit, les combats de chaque femme ont été difficiles et plutôt mal perçus, elles étaient isolées, etc. En revanche, au niveau historique, si on prend un peu de recul, il faut le dire, cette libération des femmes, cette émancipation des femmes a été un processus extraordinairement rapide. Si on le compare à la longueur de l'histoire précédente, durant laquelle leur statut était resté dominé et complètement, enfin, sans beaucoup de variations. Et donc, quels sont ces changements? Eh bien, ce qui se passe avec cette croissance économique, avec ce progrès technologique cumulatif, eh bien, pas tout de suite évidemment, mais en quelques décennies, parce qu'il faut le temps que ces effets prennent forme matérielle, et puis ensuite forme aussi dans les conséquences qu'elles ont sur les consciences. D'abord, le recours accru à l'énergie, ce recours massif sans précédent à l'énergie, il a provoqué la dévaluation de la force physique. la force physique dont on a parlé tout à l'heure, ce différentiel, cette fluctuation de la force physique des femmes qui les tenait à l'écart de certaines activités, eh bien la force physique qui était importante dans toutes les sociétés jusqu'à l'époque la plus récente, tout simplement parce que, eh bien, voilà, on avait les bras, c'était l'outil de production premier.
C'était une des principales sources d'énergie avec le cheval, les turbines hydrauliques de l'époque et la biomasse.
Exactement. Eh bien, l'importance de la force physique, elle est complètement dévaluée parce que par rapport à la puissance des machines dont on commence à se servir, ces esclaves énergétiques dont parle Jean-Marc Jancovici, eh bien, par rapport à ces machines, la puissance de l'homme, même très fort, elle est ravalée à epsilon. Donc la différence entre les hommes et les femmes, elle commence à beaucoup moins compter à partir de ce moment-là, y compris symboliquement. Donc le prestige de la force physique ne cesse de décroître à partir de cette époque. Mais ça, c'est juste, comment dire, c'est la première petite raison. La deuxième raison, déjà beaucoup plus importante, c'est la technologisation croissante du quotidien, donc cette transformation matérielle de notre environnement. Et quand je parle de la technologisation du quotidien, il faut penser aux appareils ménagers, dont les foyers commencent à être équipés, mais il faut penser beaucoup plus globalement à toutes les tâches qui devaient être effectuées à l'intérieur de chaque foyer et qui, à partir de ce moment-là, vont commencer à être effectuées ailleurs ou autrement. Donc, il ne s'agit pas uniquement de Moulinex qui libère la femme ou qui ne la libère pas, d'ailleurs. Tout seul, il aurait eu du mal à la libérer, d'ailleurs. Même si Moulinex, aspirateur, réfrigérateur et tout le reste ont bien participé à dégager du temps libre sur les activités domestiques. Mais l'essentiel du temps libre, il vient de l'équipement massif de la société en infrastructures qui vont permettre la division sociale et non plus sexuelle de la plupart des tâches, y compris des tâches domestiques. C'est-à-dire qu'il faut penser à ce qu'a représenté pour les foyers, pour les femmes, pour les mères de famille, par exemple, l'introduction de l'eau courante. Il faut penser à ce qu'a représenté pour elles l'électrification. Aujourd'hui, quand on se lève, on appuie sur un bouton, nous avons de la lumière. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher du bois ou une lampe à huile, etc. Aujourd'hui, quand on se lève, on tourne en robinet, nous avons de l'eau qui coule. Nous n'avons pas besoin de descendre à la rivière, au puits, prendre des seaux, porter cette eau, etc. Faire du feu dans l'âtre et puis mettre une marmite par-dessus et puis la chauffer. Si on imagine le temps et les efforts physiques nécessaires pour ça par rapport au fait de tourner le robinet et d'appuyer sur un bouton sur la bouilloire, c'est absolument colossal. Parce que ça se répète beaucoup de fois dans la journée. Et il en va ainsi de la plupart des activités qui avant étaient assumées à l'intérieur des familles. Par exemple, la nourriture. Dans les sociétés agricoles, on faisait pousser ses légumes, etc. On s'occupait essentiellement de la production de la nourriture et de sa préparation. Les vêtements, on confectionnait ses propres vêtements, on reprisait ses propres vêtements. Aujourd'hui, tout ça, nous ne le faisons plus. Ce n'est pas juste que nous avons des appareils à l'intérieur de la maison qui le font à notre place. Ce sont des appareils ailleurs, dans des usines, construites en métal et en acier, qui tournent grâce à cette débauche d'énergie colossale, qui produisent à l'échelle industrielle ces biens de consommation, qui ensuite sont transportés dans des camions partout, dans tous les supermarchés de France et de Navarre. Et nous allons au supermarché, nous perdons une petite heure à faire nos courses, on revient, on les met au frigo, et puis ensuite on les sort quand il faut les mettre au micro-ondes ou au four ou n'importe où. Et le tour est joué. C'est-à-dire que le temps biographique que dégage ce changement de répartition des tâches, il est très considérable. Et le dégagement de ce temps, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il permet aux femmes de se consacrer à autre chose. Alors, avant de dire à quelle autre chose, je voudrais mentionner le dernier facteur, encore plus massif, peut-être le plus important, pour moi c'est vraiment le cœur de ce livre, c'est le progrès médical. Le progrès médical qui est absolument fondamental pour l'émancipation des femmes. Et quand je parle de progrès médical, alors souvent, en lien avec les femmes, on pense à ce qui concerne la contraception ou la mortalité des femmes en couche, à l'avortement, etc. Tout ça, qui sont des avancées.
Ça en fait partie.
Oui, ça en fait partie. Ce sont des choses très importantes qui ont grandement amélioré le confort des femmes, leur confort de vie, leur espérance de vie, etc. Mais ce qui m'intéresse le plus dans ce livre, c'est la mortalité infantile.
Oui.
Pourquoi ça m'intéresse autant ? Parce que tu l'as dit, dans toutes les sociétés jusqu'à la nôtre, jusqu'à la fin du 19e siècle en fait, parce que ça a été la chose la plus lente peut-être à arracher au progrès technique, la mortalité infantile est restée très élevée. Très élevée, c'est-à-dire que quasiment un enfant sur deux, avec des variations importantes bien sûr, saisonnières, par décennie, selon la virulence des virus, etc. Mais n'empêche que, bon an, mal an, la mortalité infantile était telle que quasiment un enfant sur deux n'atteignait pas l'âge adulte. Donc pour avoir espéré avoir deux, trois enfants vivants, eh bien il fallait en faire, oui, six minimum, et peut-être plus pour être tout à fait sûr, parce qu'on n'était jamais assuré. La moyenne, c'est la moyenne. Donc, ce qui fait que réduire la natalité n'était pas un projet viable. On ne pouvait pas espérer réduire la natalité tant que la mortalité était aussi élevée. Donc, cette mortalité infantile extraordinaire, elle était une espèce de verrou qui empêchait, même en cas de volonté ou de pourquoi pas invention miraculeuse qui aurait permis aux femmes de réduire le nombre de grossesses, elle n'aurait pas été viable au niveau collectif. Parce que ce qui intéressait le plus les groupes, les sociétés à ce moment-là, c'était de préserver un nombre suffisant d'enfants pour que le groupe puisse se reproduire. Et pour chaque famille, c'était d'avoir suffisamment d'enfants vivants, y compris pour que quelqu'un s'occupe d'eux dans les vieux jours, parce qu'à l'époque, les retraites n'existaient pas non plus. Donc la réduction de la mortalité infantile a été quelque chose de décisif qui a libéré les femmes de cette nécessité vitale de faire beaucoup d'enfants. Et la mortalité, elle est descendue, pour des raisons très simples, complètement liées à ce progrès technologique, ce progrès scientifique et donc médical. L'assainissement de l'eau, qui a permis de réduire les infections gastro-intestinales. Les premiers vaccins, qui ont été ensuite suivis par les autres. L'amélioration des rendements agricoles, dont tu as parlé, donc la réduction des famines, donc le recul du rachitisme, le renforcement de l'immunité collective. La pasteurisation du lait, qui a été
L'hygiène, les
l'hygiène en
antibiotiques,
général. Et puis à la fin, les antibiotiques. Les antibiotiques, ça a été le dernier coup, parce qu'au début du XXe siècle, la mortalité infantile avant un an en France était encore de l'ordre de 70 pour 1000. Et avec les antibiotiques, on voit le dernier piqué de la courbe. La courbe, elle pique comme ça à chaque grande avancée, disons, dans ce domaine. Puis le dernier piqué qui ramène la mortalité vers zéro quasiment, c'est-à-dire qu'on en est à 3 et quelques des poussières pour 1000 aujourd'hui. Eh bien, ce sont les antibiotiques. Puis après, vraiment, le tout dernier coup, c'est là tout ce qui est périnatal, la néonatalagie, les soins néonataux, etc., autour des bébés prématurés et autres. Et voilà. Et donc là, une fois que vous avez des enfants qui commencent à devenir des enfants qui vont vivre, j'utilise cette expression dans mon livre, l'enfant qui vivra. Un enfant qui naît dans notre société, c'est un enfant qui va vivre. On en est persuadé, sauf injustice terrible, accident, maladie grave, etc. Sauf ces cas exceptionnels, les enfants qui naissent sont promis à la vie et à une vie longue. On le sait. Et donc, savoir que ton enfant qui naît va vivre, c'est quelque chose qui modifie profondément notre rapport à l'enfantement, notre rapport aux enfants, et aussi à notre propre temps biographique. C'est-à-dire que si on est sûr que nos enfants qui naissent vont vivre, on peut se permettre de faire les premiers enfants tard. N'est-ce pas? On peut attendre d'avoir atteint la trentaine, pourquoi pas plus, pour commencer à se reproduire, à faire un enfant ou deux qui, eux, vont vivre, n'est-ce pas? Ils ne vont pas mourir à un an d'une méchante pneumonie. Alors que si la mortalité infantile est très, très élevée, si justement les enfants risquent, chaque enfant risque de mourir en bas âge, eh bien, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre d'avoir terminé votre thèse de doctorat, d'avoir fait des études supérieures, d'avoir lancé votre carrière, de vous être installé dans la vie pour commencer à faire des enfants. Parce que vous commencez à faire des enfants, poum, ben, ils sont morts. Ah bon? Et vous avez atteint la limite de l'âge et c'est fini. Donc, on ne considère pas sa propre vie de la même façon. Et pour moi, ce changement, il est absolument fondamental aussi dans la libération, y compris morale et psychologique, qu'il permet aux femmes. Et ensuite, la contraception, le droit à l'avortement, ils arrivent un peu comme la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, ils arrivent à point nommé. Ils arrivent à un moment où les femmes, justement, peuvent collectivement imaginer contrôler leur fécondité d'une manière sereine.
Non, mais tout à fait. Bon, c'est un très bon résumé.
Et de l'autre côté,
Revenir
je
sur.
termine, je parlais de la demande, donc là, vous avez l'offre. Les femmes deviennent collectivement beaucoup plus disponibles, elles ont plus de temps à offrir, elles peuvent s'engager dans des études, elles peuvent s'engager dans le travail. Et en face, au 19e siècle, il y a la dynamique du capitalisme industriel
Ah
qui, elle,
voilà, c'est
a besoin de
exactement le
bras.
terme que je voulais employer. Ouais. Le capitalisme
Et oui,
industriel a besoin d'elle pour
il a besoin
prospérer.
d'elle, il a besoin de tout le
Ah oui.
monde. Il a besoin
Ce
des
qui est une idée un
paysans pour faire des
peu,
campagnes.
bon, ce qui est une idée un peu dérangeante aussi pour certains courants du féminisme pour qui, bon, on va dire, le capitalisme industriel qui exploite la nature et qui, on va dire, asservit les femmes, enfin tout ça est de la même origine quelque part, Alors qu'on peut renverser la logique et dire, bah, non, au contraire, ça ne me fait pas particulièrement plaisir de le dire. Et le capitalisme industriel, on va y venir, génère énormément d'impacts négatifs sur l'environnement, etc. Mais au final, c'est aussi un des facteurs, en quelque sorte, d'émancipation des femmes en les retirant des campagnes et en les mettant sur des métiers bah, de plus en plus confortables. Femmes comme hommes, d'ailleurs. Hein, mais, voilà.
Oui, tout à fait. En fait, le problème, c'est que tout est toujours dialectique. Un phénomène a toujours des conséquences et des conséquences contraires. C'est un truisme de le dire, mais rien n'est jamais noir et blanc. Donc, effectivement, opposer capitalisme et émancipation des femmes, c'est en contresens. D'abord parce que l'inégalité entre les hommes et les femmes n'a pas du tout attendu le capitalisme pour exister. L'inégalité entre les hommes et les femmes, c'est un phénomène beaucoup plus ancien que le capitalisme. Le capitalisme, c'est un mode de production très nouveau et très révolutionnaire. Et deuxièmement, parce que historiquement, le capitalisme, pas immédiatement, mais avec un petit décalage qui est nécessaire pour que ses effets puissent se ressentir sur la structure sociale, il est justement le premier mode de production qui a permis l'émancipation des femmes par le biais des mécanismes que j'essaie de mettre au jour. Et bien sûr que c'est une idée dérangeante, parce qu'on aimerait bien qu'un phénomène soit univoquement mauvais, soit univoquement bon, mais ça n'existe pas en fait. Où ça existe très très peu, c'est très très rare. Donc effectivement, le capitalisme a mis les femmes au travail, il a d'ailleurs mis les enfants aussi au travail dans un premier temps, tellement il avait besoin de bras. Bon, heureusement, ça s'est assez vite arrêté. Ça ne veut pas dire que le capitalisme, ontologiquement, avait intérêt à la liberté des femmes, ou que les capitalistes ou les patrons étaient soucieux de l'émancipation des femmes, de leur bien-être. Absolument pas. Au contraire, c'était une logique d'exploitation, bien entendu, tout comme l'exploitation des prolétaires. Les femmes prolétaires, les hommes prolétaires, un prolétaire vaut un autre prolétaire. C'est uniquement l'idée de légalisation dans l'oppression, si l'on veut. On peut aussi dire que les femmes ont troqué une forme d'oppression pour une autre forme d'oppression. Ce n'est pas faux non plus de le voir de cette façon, mais c'est vrai que historiquement, ça a quand même permis une amélioration collective des conditions. Qui a permis aux femmes d'avoir davantage de latitude d'action. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes aujourd'hui sont totalement libres. Ce n'est pas le vrai du tout de tous les hommes non plus, d'ailleurs. Les stratifications sociales restent qu'elles sont, les inégalités sociales existent.
Il reste des combats à mener, tu le dis aussi dans ton livre. On n'est pas en train de...
Y compris pour les femmes, d'ailleurs, la libération, entre guillemets, est complètement incomplète. Mais il est vrai que historiquement, c'est le capitalisme qui a été le point d'impulsion, disons, qui a lancé ce processus par le biais de l'industrialisation. D'ailleurs, je le dis, il n'y a tellement aucun lien ontologique entre capitalisme et émancipation des femmes qu'on peut observer le même phénomène dans d'autres pays qui ne sont pas capitalistes, mais qui ont procédé à l'industrialisation également, par d'autres biais. Si on regarde le camp socialiste, par exemple, qui s'est industrialisé très fortement au XXe siècle, eh bien, on y observe exactement les mêmes effets sur le travail des femmes, sur l'égalisation des conditions entre les hommes et les femmes. Donc, ce n'est pas le capitalisme en tant que système philosophique, si l'on veut. C'est le mouvement d'industrialisation qui l'a impulsé.
Il y a un extrait de ton livre qui est assez rigolo, qui illustre assez bien ce que tu dis. D'ailleurs, oui, depuis tout à l'heure, on est assez sérieux, on parle de sujets quand même assez graves, mais voilà, j'en suis témoin, on a déjà dîné ensemble et j'ai bien rigolé. Bref, t'as quelqu'un qui a le sens de l'humour. En fait, depuis tout à l'heure, je cherche un extrait, c'est pour ça que j'ai la tête basse et je m'en excuse, mais je l'ai enfin trouvé. C'est un extrait où tu parles des Monty Python, la scène du film Life of Brian, où le chef d'un groupe de conspirateurs judéens dénonçant l'occupation romaine, demande de façon purement rhétorique à son petit auditoire. « Qu'est-ce que les Romains ont jamais fait pour nous ?» Il est interrompu dans son élan oratoire par un militant qui lève la main. « L'aqueduc ?» demande celui-ci d'une voix mal assurée. Puis les réponses pleuvent. « Les routes, l'irrigation, la médecine, l'éducation, le vin, les bateaux publics. On peut aussi marcher dans la rue en sécurité la nuit. » « Bon, très bien, » conclut le leader, agacé. Mais hormis le système sanitaire, la médecine, l'éducation, le vin, l'ordre public, l'irrigation, les routes, l'eau potable et le système de santé publique, qu'est-ce que les Romains ont jamais fait pour nous ? Voilà. Bon, un extrait vaut mille mots. Voilà. Je pense que niveau constat, c'est assez clair, même si peut-être pour terminer sur cette page constat, avant de passer à la suite sur ce qui menace tous ces droits, voilà, notamment les questions de pénurie, effondrement énergétique, climatique et compagnie. Effectivement, tout ce que tu dis paraît assez évident, enfin, et pourtant on l'entend peu. Alors, tu fais pas mal référence à Simone de Beauvoir qui avait établi ce genre de lien, mais ce n'est pas forcément ce qu'on a retenu du travail de Simone de Beauvoir. Lorsque tu as constaté tout ça, tu t'es pas dit, mais attends, il y a un truc qui cloche, ça paraît trop évident pour être juste, pourquoi personne écrit l'histoire comme ça, enfin voilà, tout, enfin, ce que tu viens d'exposer quand même. Alors on va trouver des contre-exemples et des approximations, genre ah non, mais il y a encore beaucoup de pays qui sont industrialisés, mais où l'homme, où les femmes sont loin d'être les égales de l'homme, etc. Donc des pays avec des cultures différentes. Mais quand même, dans les grandes lignes, dans les grandes masses, ce que tu dis apparaît évident. À quel moment tu dis, bah, je vais en faire un livre, même si ça apparaît évident?
Eh bien, j'y pense depuis très longtemps, et effectivement, à moi, tout ça est toujours apparu totalement évident. Et comme tu le dis, oui, j'ai été pas mal freinée par cette idée que bah, tout le monde doit savoir ça, ça tombe sous le sens, pourquoi l'écrire? Parce qu'on écrit « Le ciel est bleu », tout le monde le sait, etc. Et à force de discussions, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout présent dans les consciences. Ça me semblait évident, mais très souvent, ça ne l'était pas du tout pour mes interlocuteurs. Et j'ai réfléchi pourquoi ça m'était autant évident et peut-être pas autant évident à beaucoup de gens avec qui j'en discutais. Peut-être en raison de mon histoire familiale, parce que je ne suis pas née en France, je ne suis pas née en Occident. Je suis née en Union soviétique, qui était un pays industrialisé, mais de façon assez inégale, assez différente de l'Occident. Il y avait là-bas de grandes zones, notamment dans les campagnes, qui étaient restées beaucoup plus archaïques que les campagnes françaises, par exemple, à la même époque. Et donc, j'ai passé beaucoup mon enfance, tous les étés, je l'ai passé à la campagne, 2 mois chaque été, campagne profonde. Et c'est vrai qu'observer les paysans autour faire un très grand nombre de choses à la main, nous, en vacances, on allait chercher l'eau au puits. On allait chercher l'eau au puits, on la ramenait à la maison, on se chauffait avec un poêle, etc. Notre hôte trayait les vaches à la main, etc. Donc c'était des conditions qui n'étaient pas du tout celles des sociétés pré-industrielles, mais quand même il y avait quelques éléments qui étaient beaucoup plus proches de... Et là on voit tout de suite un certain nombre de logiques qui se mettent en place dans la division du travail, notamment dans... Et puis c'était aussi une société, peut-être, je sais pas, où on avait davantage la mémoire des grandes catastrophes ou des... Moi-même, j'ai vécu l'effondrement de l'Union soviétique, enfant, donc c'était aussi des choses auxquelles je réfléchissais beaucoup, la stabilité des systèmes, qu'est-ce qui fait que les choses marchent, qu'est-ce qui fait qu'elles peuvent ne pas marcher. Mais vraiment, cette attention au matériel et à ce que le matériel peut changer concrètement pour notre fonctionnement quotidien, ça avait toujours été présent dans ma tête. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, non, ça vaut quand même la peine d'être écrit, ne serait-ce que pour le formuler. Et j'avoue que depuis que je l'ai écrit, je l'ai publié, oui, les réactions, il y a une partie des gens qui disent oui, c'est évident, mais en même temps, c'est bien de l'avoir écrit.
Oui.
Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont déjà pensé à des tas de liens, mais sans forcément les formaliser, parce que c'est vrai aussi que tous les liens ne viennent pas tout de suite. C'est en commençant à les écrire, en les systématisant, qu'on en vient à avoir des tas de correspondances auxquelles on n'aurait pas pensé spontanément. Et c'est vrai aussi que bon, ma première réflexion, ça avait été sur les antibiotiques. On peut dire que ce livre était parti de la question des antibiotiques. Parce que j'ai des enfants, parce que mes enfants ont été malades, parce que moi-même, j'ai eu des infections qui avaient nécessité un usage fort d'antibiotiques et que moi, par exemple, j'aurais pu mourir plusieurs fois dans ma vie. Et là, on se dit, et si j'avais pas eu ces petites boîtes, qu'elles n'étaient pas disponibles, ah oui, ah ben non, plus. Et donc voilà, donc ça, c'est l'un des fils qui avait permis de tirer la réflexion.
Ok, bah, on en est là. Il reste des combats à mener pour, alors pas une égalité parfaite, mais pour une émancipation aboutie. Tu le reconnais d'ailleurs, certains combats menés par les... Alors, tu parles du féminisme de la revendication et parfois de manière plus péjorative du féminisme des lamentations versus le féminisme du faire. Le féminisme du faire, et parfois tu dis même que certains des plus grands féministes, en fait, c'est pas des gens qui étaient tellement féministes. Alors tu prends l'exemple de George Sand, tu prends l'exemple alors d'épidémiologiste ou d'inventeur du monde médical, dont je me rappelle même pas du nom, mais souvent des hommes qui ont fait des inventions qui ont énormément contribué aux droits des femmes, et pourtant on n'en parle pas comme ça parce qu'on est dans du faire. Pour que les conditions matérielles s'améliorent. Donc aujourd'hui, effectivement, on en est au point où on en est. Il y a les menaces dont on parle le plus souvent sur le droit des femmes ne sont pas forcément les menaces que toi tu juges prioritaires. Et en effet, on peut se dire en cas d'épuisement de ressources, de dégradation poursuivie des écosystèmes, des dérèglements climatiques, on note déjà d'ailleurs que dans les catastrophes naturelles, etc., les femmes en sont plus victimes que les hommes. Et ce, partout dans le monde. On le note déjà, ça. Et pourtant, on n'en parle pas tant que ça lorsqu'il s'agit de lutte féministe. Je te laisse développer aussi sur cette base, sur les vraies menaces qui pèsent sur cette émancipation. On le répète, tu ne dis pas « ça y est, le boulot est fait, c'est terminé, il n'y a plus rien à aller obtenir ». Au contraire même, au contraire.
Oui, tout à fait. Non, effectivement, il ne faut pas confondre les deux. Je ne dis pas que tout est parfait, tout n'est pas parfait. Mais c'est vrai que historiquement, les choses n'ont jamais été aussi bonnes pour les femmes. Leur situation aujourd'hui est incomparable avec n'importe quelle période historique qu'on peut prendre. Oui, alors une fois qu'on a admis, si on l'admet bien sûr, que ces changements matériels ont été importants pour le statut des femmes, si on admet que cette infrastructure matérielle qui nous entoure, dans laquelle nous fonctionnons tous les jours, est importante pour les femmes, eh bien, il est logique de s'inquiéter du devenir de cette infrastructure. C'est-à-dire qu'un miroir, n'est-ce pas ? Si ces éléments matériels ont permis les progrès dans le statut des femmes, qu'est-ce qui va se passer avec ce statut, avec ces droits, avec cette situation dont les femmes bénéficient aujourd'hui, en tout cas dans les pays occidentaux ? Qu'est-ce qui va se passer si cette infrastructure en vient à être déstabilisée, remise en question, voire si elle disparaît ? Donc c'est ça la question que je pose. Donc là, on vient à la partie collapso, on va dire, du collapso-féminisme. Eh bien, il me semble que, tout comme dans les sociétés pré-industrielles, la faiblesse des rendements, l'importance de la force physique, la division sexuelle d'une partie, en tout cas des tâches qui prévaut, empêche les femmes de participer effectivement à d'autres sphères de la vie sociale. De la même façon, dans une société qui serait privée de l'accès à cette énergie bon marché dont nous disposons, dans une société où notre confort matériel serait remis en cause par la déstabilisation économique, par la déstabilisation politique peut-être aussi, par la multiplication des conflits qui accompagneraient la lutte pour les ressources, pourrait dégrader le statut des femmes d'une façon très substantielle. Alors
de quelle suis façon... des hommes aussi quand même, parce que retourner à la guerre, c'est embêtant.
Celle des hommes, aussi, complètement.
C'est pas agréable non plus.
Bien entendu, c'est pas du tout mon projet de le nier, mais pas de la même manière. Disons que la manière dont les hommes et les femmes existeraient dans un monde qui redeviendrait plus rustique, plus manuel, moins technologisé, elle deviendrait de nouveau plus différenciée. Les hommes en pâtiraient beaucoup, hein. Et d'ailleurs, ils pâtissaient énormément de la répartition des tâches qui était celle des sociétés pré-industrielles, hein. Devoir combattre une pique à la main n'a absolument rien d'agréable, hein. S'occuper du labour et du défrichement non plus, hein. C'est vraiment des travaux physiques éreintants, et c'est pas du tout pour dire que les hommes se la coulaient douce, c'est pas du tout le cas. Non, mais en revanche, les contraintes auxquelles ils étaient soumis n'étaient pas les mêmes. Et la femme, par rapport à l'homme, avait pour des avantages, parce qu'elle était plus immobile, moins investie dans les autres activités sociales, d'être en plus infériorisée par l'homme. Donc il y avait une espèce de couche supplémentaire d'inégalité qui pesait sur elle, et qui risque de revenir sous une forme ou une autre si nos conditions de vie se dégradent suffisamment pour que le monde dans lequel on va habiter commence à rappeler sérieusement celui d'avant. Ça ne sera jamais celui d'avant, parce que les retours en arrière n'existent pas, on est d'accord. Mais, disons, si ces éléments très modernes de confort qui nous assurent la possibilité de mener cette vie égalitaire disparaissent ou sont complètement fragilisés. Donc c'est ça la question que je pose. Et je la pose parce que nous sommes à un moment assez particulier de l'histoire. Je pense que c'est d'ailleurs assez excitant. C'est un moment très intéressant. Parce que nous sommes aujourd'hui à un moment où, durant des décennies, durant deux siècles, on va dire, toutes les courbes ont toujours été ascendantes. Les courbes de croissance, les courbes de progrès technologique cumulatif, etc., tout ça allait toujours vers le haut. Il n'y a que la courbe de la démographie qui, dans nos pays, commence à flancher sérieusement. Mais pour le reste, on est encore sur le haut de la vague. On est sur le haut de la vague, mais on commence à sentir un peu le précipice en dessous. Parce que
la consommation d'énergie maintenant en Europe, elle baisse depuis une quinzaine d'années. Hein.
Exactement, le pic semble dépassé. On en arrive à un moment où cette idée que tout va toujours aller en croissant, en se multipliant, en augmentant, elle commence à montrer ses limites. C'est-à-dire qu'on commence à prendre conscience que ce n'est peut-être pas ainsi que les choses vont se passer. Donc le matériel qu'on a un peu oublié, parce que ça c'est aussi, tu me demandais tout à l'heure pourquoi je l'ai écrit, pourquoi c'est évident, etc. Oui, c'est évident, mais c'est de moins en moins évident à mesure qu'on s'éloigne de ce monde des contraintes naturelles, des contraintes de la nature, du milieu, de la biologie. Dans notre monde, on peut facilement les oublier. Et on les oublie. On les oublie très facilement. C'est vrai que dans notre monde urbain, technologisé, confortable, où, comme je l'ai dit, il suffit d'appuyer sur un bouton pour se chauffer, pour boire, voire pour manger, dans ce monde où il suffit d'entrer dans une rame de métro pour se déplacer à une vitesse hallucinante à l'autre bout de la ville ou à l'autre bout de la France en train. Eh bien, dans ce monde, il est assez facile d'oublier, oui, tout ce que ça prenait comme effort, tout ce que ça nécessitait comme sacrifice de soi, de l'énergie, du corps, pour que toutes ces choses adviennent. Et aujourd'hui, on est à un moment où tout ce matériel, un peu oublié, un peu mis à l'écart, un peu euphémisé, il risque de nous revenir en pleine face. Il risque de nous revenir en pleine face par le biais de ces crises dont tu as parlé, la crise des ressources qui s'annonce, et aussi la crise environnementale. Liée à la déstabilisation de notre environnement par cette même dynamique du capitalisme industriel qui nous a permis de parvenir à ce niveau de confort. Donc on en revient à la question que j'évoquais tout à l'heure, l'aspect dialectique de tous ces processus. Oui, le capitalisme a permis l'égalisation des conditions entre les hommes et les femmes, mais le capitalisme n'a pas eu que ça comme effet, bien entendu. Et d'ailleurs, c'était un effet complètement, comment dire, collatéral, qui n'était absolument pas conscient. Parmi les effets du capitalisme, il y a aussi cette déstabilisation de l'environnement par cet usage immodéré, massif, sans précédent, à l'énergie et donc la destruction qui s'ensuit des écosystèmes et puis le réchauffement aussi climatique. Et cette crise climatique qui risque de modifier notre environnement en profondeur, alors les rapports du GIEC sont chaque fois plus alarmistes. On ne sait plus trop sur quoi on table, mais en tout cas,
Alarmant, parce que
voilà,
alarmiste serait une
alarmant, oui.
idéologie, ils sont
Effectivement,
alarmants.
alarmant, oui, alarmiste, ça pousserait à croire qu'ils ont tort.
Ils aimeraient, ils préféreraient ne pas alarmer d'ailleurs. Donc bon,
Ils préféraient ne pas
parenthèse refermée.
alarmer, exactement. Donc, cette crise environnementale et cette crise des ressources, en fait, et le problème aussi de ces deux crises, c'est qu'elles se conjuguent. Comme le montre notamment Jean-Marc Jancovici, il y a une espèce d'effet ciseau entre les deux. Moi, je parle de télescopage. Du point de vue temporel, elles arrivent à peu près en même temps, elles arrivent dans les prochaines décennies, dans les décennies à venir. Or, si on avait à notre disposition une énergie infinie bon marché, on pourrait faire face au changement climatique avec une relative facilité. On trouverait des solutions, on les mettrait en place, on pallierait ces
On
problèmes.
met des serres partout chauffées pour pallier les
Exactement.
pertes de rendement agricole, on construit des digues partout, on rénove les maisons
Exactement.
qui
On
sont
dessale l'eau de
frappées par les
mer,
catastrophes naturelles.
etc. Voilà. En revanche, dans un monde où on a à la fois l'environnement qui se dégrade, donc les rendements agricoles de certaines régions qui peuvent s'effondrer complètement, beaucoup de problèmes climatologiques, des catastrophes, problèmes des infrastructures, etc. Et dans lequel l'énergie en vient à manquer et d'autres ressources en viennent à manquer, donc où aussi les échanges risquent de se déstabiliser, les échanges mondiaux. Or, parce qu'ils sont basés sur le transport. Or, notre économie est très dépendante de ces échanges internationaux, de son inscription dans le capitalisme globalisé. Eh bien, la conjugaison des deux, oui, risque de poser vraiment problème. Donc, d'où un peu le degré d'inquiétude peut-être qui est perceptible dans
Dans
ce livre.
l'histoire des effondrements civilisationnels passés, en remontant jusqu'à l'âge de bronze en 1200 avant Jésus-Christ, mais aussi les effondrements qui ont suivi, le recul des échanges internationaux et du commerce international, ça faisait partie des facteurs qui font que
Absolument.
le système se délite.
Absolument. Et puis en général, il faut la conjugaison de plusieurs facteurs pour qu'il y ait de graves problèmes. Et c'est un peu à une telle conjugaison que nous faisons face aujourd'hui. Donc effectivement, dans ces conditions, qu'est-ce qui va se passer avec les femmes? Eh bien, si on imagine un monde déstabilisé, donc un monde qui risque d'être plus pauvre, plus chaotique, parce que qui dit diminution des ressources dit aussi plus de conflits, plus violents donc. Eh bien, dans ce monde, l'importance de la force physique va s'accroître de nouveau, parce que qui dit moins d'esclaves énergétiques dit nécessité d'énergie, eh bien, la nôtre. Dans ce monde, la technologisation de notre quotidien risque de prendre un coup, parce que notamment dans le cadre d'arbitrage entre à quoi on va employer l'énergie restante, comment on va allouer les ressources que nous avons. Et puis, le progrès médical lui-même. Risque d'en pâtir. En tout cas, c'est l'une des choses qui me semblent les plus inquiétantes et sur lesquelles il faudrait mettre le paquet en matière de réflexion sur le monde futur. Parce que si on n'y prend pas garde, l'ensemble de ces changements, donc probable baisse des rendements, donc tout ce qui est évoqué dans le rapport Meadows, des rendements agricoles, des rendements industriels, et la possible déstabilisation de ces acquis médicaux qui me semblent fondamentaux, et puis des acquis institutionnels aussi, hein, parce que je l'évoque aussi dans mon livre, il y a aussi la couche institutionnelle qui se met par-dessus avec l'État-providence quand nos sociétés s'enrichissent de façon, disons, suffisante peut-être au XXe siècle, qui fait aussi que l'ensemble de ces bienfaits sont diffusés à l'ensemble de la population. Ce n'est pas juste une élite qui en profite, la mortalité infantile est très basse pour tous en France. Il y a pas
que... Quand il y a de la croissance, on a l'embarras du choix, tiens, qui est-ce que je vais contenter en premier, et au pire, ceux que je contente le moins, ils vont quand même voir leur niveau de vie s'élever. Quand on entre en déclin, c'est plutôt à qui je prends en premier.
Exactement, voilà. C'est-à-dire exactement. Les périodes de déclin, les périodes de contraction sont souvent des périodes d'accentuation des inégalités et pas du tout d'émancipation et de fraternisation et de participation de tous au petit bonheur simple. Ça, c'est un peu une vision qui bon, c'est un souhait, ce sont des vœux, mais historiquement, c'est pas du tout comme ça.
Ça peut s'organiser, comme le proposent les décroissants, mais faut que ça s'organise,
oui,
cette sobriété, cette égalité. Puis, mais bon.
Il faut y réfléchir par deux fois, hein. On pourra y revenir peut-être. Donc, dans ce contexte, qu'est-ce qui va se passer pour les femmes? Eh bien, il me semble que si l'ensemble de ces phénomènes se produisent à un degré ou à un autre, il va y avoir une pression pour le retour vers une certaine forme de division sexuelle des tâches et vers une natalité accrue aussi, parce que l'ensemble de ces phénomènes risque malheureusement de signer une hausse de nouveau de la mortalité infantile. Et ça, ce serait vraiment un facteur très défavorable aux femmes. Parce que ça pousserait vers une plus grande natalité pour compenser cette mortalité.
Ouais. Une des grandes menaces, tu en parles, hein, de l'antibiorésistance. Alors, tu n'es pas la seule à en parler. C'est l'OMS qui dit que c'est une des plus grandes menaces sanitaires de ce siècle et qu'on n'investit pas du tout assez dans la recherche pour y pallier. Mais
absolument, aussi, voilà, l'OMS en parle. C'est même le premier problème dans son agenda, dans sa liste des priorités. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien entre cette antibiorésistance et le statut des femmes. C'est un lien qui n'est pas du tout établi en général, mais il me semble absolument évident par le biais de la mortalité infantile. C'est-à-dire qu'un monde dans lequel les antibiotiques ne marchent plus sur les infections infantiles, c'est un monde dans lequel les enfants, les petits-enfants, peuvent se remettre à mourir d'une méchante pneumonie à l'âge de 1 an. Et d'abord, nous n'y sommes pas prêts psychologiquement du tout, parce que nous avons complètement oublié ce que ça faisait. Jusqu'au 19e siècle, toutes les familles connaissaient ça. Toutes les familles avaient été endeuillées, toutes les familles avaient perdu des enfants, sauf exception. Mais c'était plutôt les exceptions qui étaient rares. La règle, c'était de perdre un, deux ou plusieurs enfants. Nous n'imaginons pas ça aujourd'hui. Pour nous, la règle absolue, c'est que les enfants vivent, et les enfants qui meurent, c'est une monstruosité, c'est quelque chose d'absolument insupportable, et c'est normal. Donc ça, c'est la première chose. Et puis l'ensemble des autres phénomènes, donc liés à la déstabilisation de ce confort matériel qui nous permet aujourd'hui de ne pas différencier les tâches confiées aux hommes et aux femmes. Et là, oui, c'est-à-dire que les premiers seront les derniers seront les premiers. Il me semble que les femmes, entre les hommes et les femmes seront clairement les premières touchées par ce biais-là, ou disons touchées plus durement. Elles partent de plus loin, parce qu'elles avaient cette couche supplémentaire d'inégalité historiquement qui pesait sur elles, l'inégalité par rapport aux hommes. Le progrès leur a permis d'annuler presque entièrement cette inégalité, et puis avec la mise en cause de cette infrastructure matérielle, elle risque de tomber de nouveau plus bas, c'est-à-dire de retrouver ce statut inférieur. Mmh. Voilà, donc moi c'est ça qui m'intéresse comme mise en garde, parce que je pense qu'il faut intégrer cette question à la réflexion sur la crise qui est possible, qui nous menace. Le statut des femmes fait partie des bienfaits de cette civilisation thermo-industrielle, qu'on le veuille ou non. Et si on veut que les femmes ne pâtissent pas des changements à venir, il faut complètement avoir ça en tête dans l'écriture des scénarios et la réflexion sur le monde matériel qu'on va essayer de construire. C'est-à-dire comment parvenir à préserver dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, suffisamment d'éléments matériels qui vont permettre aux femmes de continuer à participer à l'égal des hommes à l'ensemble des activités sociales.
En fait, sur maintenant, que faire? Parce que c'est même d'autres personnes, notamment des hommes, qui ont aussi lu ton livre et qui trouvent la proposition forte. Alors déjà, il y a tous les constats forts et la projection, toute la mise en garde que tu viens de... Mais après, ce qu'il y a de particulièrement fort, c'est maintenant, que faire? Et c'est là que je me dis, bah, ce livre, il faudrait que je l'offre à ma fille, qu'elle le lise avant de faire son choix de carrière. Alors, mon fils aussi, mais même, bon, alors ma fille a 8 ans, donc elle a le temps, mais je
Elle
trouve
a
que c'est
le
un
temps.
livre important à lire par les filles. Bon, alors, concrètement, la proposition, c'est que pour éviter tout ça, cette catastrophe, que les femmes investissent davantage les métiers techniques, scientifiques, et tu vas même jusqu'à dire les métiers militaires. Alors, non seulement pour contribuer à la recherche, au progrès technique, médical qui va nous permettre d'éviter ces catastrophes, mais aussi pour être en position de force, de manière à éviter d'être à nouveau relégué en occupant ces postes. Et alors, autant dans le domaine de la santé, c'est plutôt bien avancé. Donc, voilà, il y a une bonne moitié de femmes parmi les médecins, voire une majorité en Europe du moins, mais même ailleurs. Hein. En Iran, je pense une majorité des médecins sont des femmes. Bon, parenthèse refermée. Mais c'est pas assez. Enfin, il n'y a pas assez d'ingénieurs nucléaires, de physiciennes, à nouveau de militaires. Et donc ça, vraiment, oui, c'est la proposition qui, comment dire, oui, invite à réfléchir sur ces choix de carrière et ce que tu appelles en quelque sorte ce fameux féminisme du fer.
Oui, il y a un autre domaine dans lequel les femmes sont bien représentées maintenant, c'est l'agronomie. Et qui est très important aussi. C'est une très bonne nouvelle qu'il y ait beaucoup de femmes dans l'agronomie. Alors oui, alors d'abord, j'ai reçu des critiques des gens qui m'ont dit que je ne parle pas beaucoup des solutions réellement collectives qui passeraient par l'action politique, par la mobilisation, la révolution, etc. C'est pas du tout pour nier l'intérêt des solutions collectives. C'est vrai, que les solutions collectives sont par définition plus massives que les solutions individuelles, et ce serait très bien que nous assistions à un changement total de notre société vers une société égalitaire fondée sur l'idée d'émancipation de tous, qui ne s'intéresserait plus au profit, qui ne partirait que de l'humain, etc. Ce serait une très bonne chose, mais personnellement, je ne connais pas du tout de recette pour y parvenir. Je ne peux qu'encourager les gens qui s'investissent dans ce genre de mobilisation. C'est pas du tout mon livre. Dans mon livre, je ne cherche pas du tout à contester le bien fondé de ces démarches. Voilà, c'est pas. Mais c'est vrai que moi, je ne parle pas de ça. Notamment parce que, comment dire, à part les grandes théories de l'action révolutionnaire, je ne connais pas aujourd'hui de manuel pratique qui nous permettrait aujourd'hui d'imaginer comment, au niveau mondial, on pourrait passer à ce type de société. Donc moi, je propose des petites solutions. Ce ne sont pas des solutions magiques, ce ne sont pas, c'est pas le grand soir, comme je le dis dans mon livre. C'est assez modeste comme proposition. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui, moi, me semblent importantes. D'abord du point de vue pratique, je pense que ce sont vraiment des choses qui pourraient aider à limiter les dégâts pour les femmes. Et d'autre part, en fait, il me semble que c'est intéressant ou bon ou bien du point de vue éthique, de l'éthique personnelle. Alors je m'explique. Tu as parlé tout à l'heure de la manière dont j'aborde le féminisme. Donc les mouvements féministes qui sont très divers, très variés. On m'a aussi dit oui, mais oui, il y a 1000 sortes de courants féministes, c'est vrai. Mais il me semble qu'on peut dégager dans l'ensemble, dans tout ce foisonnement des courants féministes, deux esprits idéaux typiques, deux logiques qui les animent. La première logique, c'est la logique de la revendication, et qui a été historiquement très importante, parce que tout simplement, les femmes ne bénéficiaient pas des mêmes droits que les hommes. Donc tant que les femmes ne bénéficiaient pas des mêmes droits, ou qu'il y avait des droits spécifiques qui leur manquaient, par exemple le droit à disposer de son corps, il était évidemment logique que cette composante soit forte, qu'elle soit présente, même si, à mon avis, ce n'est pas que la revendication qui a permis l'octroi de ces droits. Mais c'est une autre question. Le fait que les femmes revendiquent était tout à fait logique et tout à fait normal. Et d'ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, quand elles étaient déjà suffisamment émancipées, notamment pour pouvoir s'investir dans l'action collective, les mobilisations féministes ont bien contribué, bien entendu, à l'obtention de ces droits. Donc, l'autre esprit idéal typique, c'est, tu l'as dit, ce que j'appelle le féminisme du faire, et qui consiste à agir à chaque moment donné historique pour exploiter au maximum toute la latitude qui nous est offerte par l'état donné de la société. Donc, à chaque étape, essayer de prendre tout l'espace possible pour justement participer au maximum des activités sociales auquel on peut parvenir, qui notamment est le but des combats féministes. Le combat féministe consiste à dire la femme doit pouvoir, les femmes doivent pouvoir faire les mêmes choses que les hommes, elles doivent pouvoir participer aux mêmes activités, avoir les mêmes droits, etc. Donc oui, je prenais l'exemple de George Sand, mais bon, on peut prendre l'exemple de toutes les femmes qui ont réalisé à chaque étape donnée des choses remarquables, non pas dans le domaine du féminisme, mais dans le domaine humain en général. Je ne sais pas, on peut prendre l'exemple de Leïla Aragian.
J'avoue pas bien me rappeler avec exactitude, déjà je connais mal George Sand et le passage que tu écris sur elle, c'est un peu estompé dans la mémoire, mais effectivement c'est ce que j'en retiens, qu'elle n'était pas dans une démarche tellement de revendication,
absolument,
mais de faire quelque chose, et le corollaire de ça, ce serait effectivement l'avancée de du statut.
Exactement, c'est-à-dire qu'elle elle vivait comme les hommes, elle était écrivain, elle allait au café avec les hommes, elle s'habillait en homme, elle fumait le cigare, elle revendiquait la même considération pour elle que les hommes, et probablement parce qu'elle avait beaucoup de talent, pour elle ça a marché, et ça a objectivement contribué hein, à avancer les droits des femmes par l'exemple, tout simplement, et par l'impact que ça a sur les esprits. On peut prendre, je disais, l'exemple de Leïla Aragian, qui, en Iran, a construit le plus grand pont qui relie les deux rives de Téhéran, et elle a gagné le concours, l'appel d'offres d'architecture pour construire ce pont, pour diriger ce chantier. Et donc, elle a dirigé un chantier pharaonique sur lequel ont travaillé des milliers d'hommes et de femmes. Alors, ce n'est pas pour opposer cet exemple aux femmes qui se mobilisent pour combattre l'inégalité entre les hommes et les femmes en Iran, mais je pense que ce genre de figure montre que le faire, il a aussi une force d'exemple. Ce genre de choses donne une voilà. Ouais, et alors pourquoi le...
Il y a eu des interprétations de travers aussi de ton propos, et tu viens de par exemple, rectifier comme tu viens de le faire. Peut-être aussi pour éviter les mauvaises interprétations, parce qu'on peut aussi te reprocher, dire bah, finalement vous faites reposer la responsabilité sur les épaules des individus, à vous d'aller devenir, de faire des grandes études, de devenir ingénieur, de devenir militaire, vous les femmes. Alors que je pense que ce n'est pas le propos, mais néanmoins, comment est-ce qu'on pourrait... politiquement organiser ça, bah, par exemple tu parles de favoriser l'accès des femmes aux filières STEM, alors STEM c'est, en gros les filières techniques, j'ai oublié l'acronyme.
Technology, Engineering and Mathematics.
Ouais. Merci.
Technologie, ingénierie et mathématiques, oui.
Bah, oui, voilà, alors est-ce qu'il faudrait faire des quotas d'accès
oui, alors avant d'arriver, des
femmes, aux écoles prépa d'ingénieurs, enfin, qu'est-ce qu'il faudrait faire politiquement?
Avant d'arriver aux solutions, juste un mot justement sur le moment présent, parce que là c'était des exemples historiques, mais le moment présent, pourquoi dans le moment présent le faire me semble fondamental? Le féminisme, on va dire, de la revendication, ou moi je parle de doléance, parce qu'aujourd'hui, paradoxalement, alors qu'on est un peu au sommet des conditions pour les femmes, au lieu de diminuer la revendication, on a l'impression qu'elle ne fait que s'exacerber. C'est vraiment un des paradoxes du moment présent, peut-être justement parce que la situation s'améliore. Quand la situation s'améliore, on supporte d'autant moins tout écart par rapport à l'idéal. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais le fait est que c'est vrai que le féminisme est très revendicatif aujourd'hui, avec beaucoup d'accusations aussi portées contre les hommes, une volonté de dénonciation, etc. Mais globalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que toutes ces revendications, elles procèdent de l'idée que l'amélioration ou la sauvegarde des droits des femmes doivent passer par le droit, par le domaine législatif et le domaine des consciences. C'est-à-dire qu'il s'agit de sensibiliser l'opinion sur des inégalités restantes ou le non-respect des droits qui existent, désigner des coupables, leur faire honte d'ailleurs, et par ce biais, hâter des mesures législatives qui vont permettre aux femmes de disposer de droits plus fermes, de réprimer plus fermement les offenses ou les manquements à leurs droits, etc. Donc c'est ça le modus operandi général. Il s'agit de passer par la morale, par l'opinion et par le droit. Alors le problème, c'est que... pour certains sujets, ça marche aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est complètement sans effet, ça a une efficacité dans le monde aujourd'hui pour certains sujets. Alors il y a d'autres, il y a des combats qui me semblent complètement accessoires, hein. On est d'accord, vraiment très secondaires par rapport à ce qui nous menace aujourd'hui. Je ne sais pas, moi, l'écriture épicène, ou, les trucs de féminisation, moralisation de la vie publique, la réécriture des livres, enfin bref. Je pense qu'il y a pas mal d'excès aussi, mais il y en a d'autres qui sont très importants. Je ne sais pas, la lutte contre les violences, vraiment. On ne va pas minimiser les choses. Mais... donc ce modus operandi est efficace pour certains sujets. En revanche, il me semble que pour les problèmes sur lesquels j'essaye d'appeler l'attention, c'est-à-dire les problèmes qui viennent, et pas les problèmes du monde présent, pour ces problèmes, ils risquent de devenir complètement inopérants. Ils risquent de devenir complètement inopérants, pourquoi ? Parce qu'on se concentre ici uniquement sur le droit, sur les droits, et pas sur ce qui les rend possibles. C'est-à-dire qu'on néglige complètement la question des conditions. Donc il y a une espèce de cécité, me semble-t-il, des mouvements féministes et de l'opinion en général, Par rapport à ces conditions, c'est-à-dire tous ceux qu'on a oubliés, en gros, tous ceux dont on parle depuis tout à l'heure. Sur quoi repose la possibilité de ces droits? Qu'est-ce qui les rend effectifs? Et je donne souvent un exemple très parlant, très simple, du droit à la contraception. Parce que c'est l'un des droits symboliques de la nouvelle condition des femmes, le droit à disposer de son corps, la contraception, loi Neuwirth, etc. Alors, le droit à la contraception, il a bien été en partie permis par les mobilisations, par les luttes. C'est bien une avancée législative, on est d'accord. Mais la contraception, qui passe avant tout par la pilule, c'est un droit, mais c'est avant tout un produit. C'est un produit qui d'abord a dû être mis au point au terme d'un processus de recherche scientifique, qui elle-même dépend de tout le progrès cumulatif scientifique et technologique antérieur. Donc, il a dû être mis au point, il a dû être produit à l'échelle industrielle, dans des usines, encore une fois, qui marchent avec de l'énergie, avec des composants qui viennent d'ailleurs, ou même produits dans des usines qui se trouvent très loin, peut-être en Chine, et qui arrivent chez nous par gros containers qui fonctionnent aussi à l'énergie. Et une fois qu'il arrive, qu'il est produit et qu'il arrive en France, il est distribué par des camions, là aussi, dans toutes les pharmacies de France et de Navarre, sous forme de petites boîtes, avec des petits comprimés dans du plastique, lui-même dérivé de pétrole. Donc, cette pilule, quand on vient à la pharmacie le matin, je ne sais pas, à Mulhouse, à Bagnères-de-Bigorre, à Dunkerque, à Paris, à Strasbourg, on vient le matin à la pharmacie et on veut exercer son droit à la contraception. On demande au pharmacien la pilule, le pharmacien sort la petite boîte. On prend la petite boîte et notre droit devient effectif. Parce que le pharmacien a sous son comptoir la pilule contraceptive qui a été produite et efficacement distribuée. Dans un monde où l'ensemble de ces circuits de production et de distribution sont désorganisés par les crises dont on parle tout à l'heure, si on imagine ce scénario-là, qu'est-ce qui se passe avec ce droit? Le droit reste. Vous avez toujours le droit à la pilule, vous avez toujours le droit à la contraception. Vous sortez le matin à Mulhouse, à Lille, à Biarritz, vous venez à la pharmacie, vous voulez avoir votre contraception et exercer votre droit. Mais il n'y a pas le produit. Vous avez le droit, mais ce droit n'est pas effectif. Il n'y a pas pénurie, rupture, on ne sait pas, ça arrivera peut-être à... Ah, il faut aller au marché noir, ma petite dame, là-bas peut-être, il y a des gens qui revendent des boîtes qu'ils ont conservées. Ah, peut-être qu'il faut aller en Espagne, peut-être que, je ne sais pas, il faudrait peut-être organiser un voyage en Chine. Bon, bref, hein, mais c'est un petit peu loin, surtout par voie continentale. Bref, dans un monde où ces circuits de production et de distribution sont désorganisés, le droit devient vide. Donc le droit ne suffit pas. Ce droit n'existe que parce qu'un ensemble de conditions sont là qui lui permettent d'être effectif. Et donc, il me semble que le faire aujourd'hui, il est particulièrement fondamental pour faire face à cette déstabilisation possible de ces conditions. Et pourquoi les STEM? Eh bien, parce que les STEM, ces métiers scientifiques et techniques, ces filières scientifiques et techniques, vont être fondamentales pour ce processus de transition vers le monde de demain. Pour éviter que cette transition ne devienne un effondrement, pour éviter qu'elle ne devienne une dégradation incontrôlée, évidemment, ces disciplines, ces domaines, ces filières seront fondamentales parce que ce sont elles qui vont permettre d'équiper, d'outiller, d'armer ce monde de demain avec la recherche sur les nouvelles formes d'énergie, avec la recherche sur de nouveaux outils qui pourront fonctionner avec ces nouvelles sources d'énergie, la recherche sur l'aménagement du territoire, sur l'agronomie, comment faire pousser les légumes dans de nouvelles conditions, etc., etc., etc. Tout ce qui va nous permettre demain d'avoir un mode de vie qui ne soit pas trop éloigné du point de vue du confort, même s'il peut l'être par des tas d'autres choses, mais du point de vue du confort et des possibilités qu'il offre aux hommes et aux femmes par rapport au monde d'aujourd'hui. Et donc, il me semble que les femmes devraient s'investir dans ces métiers. Pourquoi? D'abord parce que si on est féministe et qu'on pense aux droits des femmes, non pas d'aujourd'hui, mais de demain, donc les droits de nos filles et des filles de nos filles, il me semble déjà éthiquement et individuellement important de participer au travail, alors là, pas à la mobilisation, mais au travail, sur la sauvegarde de ces conditions. Donc déjà, pour moi, quelqu'un qui travaille sur ces choses-là, il a de fait une action féministe, de fait, pas dans la revendication, dans le petit drapeau qu'il agite au-dessus de sa tête, mais dans les effets que son action va produire. Donc ça sera bénéfique pour tous, pour les hommes comme pour les femmes, mais il y a un petit surplus pour les femmes. Deuxièmement, le fait que les femmes, et pas seulement des hommes, travaillent sur cette transition, dans ces filières, ça permettrait, comme tu l'as dit, d'orienter peut-être un peu davantage les solutions à venir dans un sens qui serait favorable aux femmes. si on prend la mortalité infantile, oui, il y a beaucoup de femmes dans la recherche médicale. À mon avis, des femmes qui travaillent dans la recherche médicale seraient bien inspirées de concentrer leur énergie, y compris militantes à l'intérieur de la science, hein, au niveau des circuits très spécifiques de ce monde, pour essayer de hâter la recherche sur les nouveaux antibiotiques efficaces contre les maladies infantiles, qui ne vient pas vraiment beaucoup. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, c'est le coût social du renvoi des femmes à la maison. Si on imagine une société dans laquelle il y a une pression pour le renvoi des femmes à la maison, oui, des femmes qui ont des compétences importantes et cruciales dans ce monde en transition, il sera plus coûteux de faire de ces femmes de simples reproductrices, pour caricaturer. Il est plus coûteux de lui dire « bon, maintenant, tu vas t'occuper juste de la cuisine et des bébés ». Et puis moi, je vais aller travailler. Si c'est la femme qui est ingénieure nucléaire, oui, non, elle aura beaucoup plus de clés, de flèches à son arc que si elle a un métier qui ne sera pas essentiel ou fondamental dans cette transition. Alors, tu as raison de dire que c'est individuel, comme idée, oui, c'est vrai, c'est individuel. Mais c'est vrai aussi que ce sont les individus qui, en s'agrégeant, produisent le collectif. Donc, il me semble que c'est en tout cas un critère qu'on pourrait prendre en compte quand on choisit sa voie professionnelle. Est-ce que ce que je vais faire... Qu'est-ce que ça va m'assurer demain comme statut? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? À quoi ça va contribuer aussi? Mais aussi moi, individu, qu'est-ce que je vais détenir comme compétences et en quoi ces compétences vont me permettre de me protéger? Donc voilà, alors après, on m'a aussi posé la question.
Là où je reste peut-être sur ma fin, c'est comment impulser ça au-delà de la sensibilisation des individus? Parce que tu dis... Par exemple, tu mets en doute, sans forcément, enfin, tu questionnes plutôt, l'idée selon laquelle le déficit de femmes dans les métiers techniques proviendrait d'un conditionnement dès le plus jeune âge, où on met des étiquettes, les filles c'est plutôt pour ces métiers-là, les hommes plutôt pour ces métiers-là. Voilà, tu cites des sources, etc., pour dire ouais, ça paraît pas si évident, et c'est peut-être une affaire plus... inné, je ne sais pas. Mais oui, pourquoi finalement on observe ce déficit de femmes dans les métiers techniques, et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Et ce sera peut-être ma dernière question, parce qu'on ne va peut-être pas tout spoiler, oui, du livre non plus, que je recommande de lire, malgré le fait qu'on en fait un bon tour d'horizon, mais se plonger dedans, c'est autre chose que d'écouter une heure de podcast.
Alors pourquoi il y a si peu de femmes dans les STEM? C'est une question passionnante et qui demanderait une recherche dépassionnée, même si elle est passionnante, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt une question qui est discutée un peu sur un mode, souvent très idéologique, parce qu'elle emporte beaucoup de présupposés qui apparaissent comme des menaces, en particulier pour les gens qui s'estiment progressistes, féministes, etc. Effectivement, dès qu'on touche à l'idée que tout est social, ça provoque beaucoup de crispation. Beaucoup de choses sont sociales, mais tout n'est pas que social. Et notamment pour la question des STEM, l'idée que le déficit des femmes dans ces filières serait uniquement dû aux stéréotypes et aux biais d'autosélection, c'est-à-dire « ah, je suis une fille, je ne vais pas y arriver parce que mon papa m'a dit un jour que les filles, ça ne pouvait pas faire de maths », ça me semble très discutable, pour plein de raisons, notamment des raisons historiques. À peu près l'ensemble des métiers que les femmes exercent aujourd'hui étaient des métiers qui leur étaient interdits. Enfin, pas l'ensemble, mais une bonne partie des métiers que exercent les femmes aujourd'hui étaient des métiers qui leur étaient pas accessibles avant le XXe siècle. Et si on prend deux exemples très marquants, la médecine, que tu as évoquée tout à l'heure, et le droit, les médecins et les magistrats, au XIXe siècle, je peux te dire que c'était des notables. Et les magistrats, notamment, c'était des gens qui étaient investis d'un pouvoir assez important. Et imaginer qu'une femme puisse être magistrate, qu'une femme puisse être juge au XIXe siècle, je peux te dire que c'était absolument impossible. Bien plus impossible, je pense d'ailleurs, que le fait qu'une femme soit mathématicienne. Il y avait Marie Curie était déjà une sommité de la science et il y avait absolument aucune femme qui était juge à ce moment-là. Donc la science était même relativement plus ouverte au départ que ce genre de discipline qui vraiment était, c'est la culture légitime, le latin, etc. Et pourtant, dès qu'elles en ont eu la possibilité, les femmes se sont engouffrées dans la brèche. Elles ont été très nombreuses d'aller dans les facultés de médecine, très nombreuses d'aller dans les facultés de droit. Je présume que leur papa leur disait aussi, le droit, c'est pas pour toi, ma fille, tu vas pas être juge, tu rigoles, va plutôt repriser les chaussettes. Je présume qu'il y avait beaucoup de papas qui disaient ça, et je présume que sur les bancs de l'université, les universités de droit, les universités de médecine, elles ne se sentaient pas forcément très à l'aise. Donc, tout ça a dû exister, et pourtant, ça ne les a pas arrêtées. Donc, l'idée que les filles d'aujourd'hui sont plus peureuses, moins décidées, plus facilement, je ne sais pas, effrayée que toutes les générations de femmes d'avant qui ont réussi à investir massivement le droit à la médecine. Aujourd'hui, 80% des étudiants de l'École nationale de la magistrature, ce sont des femmes. Donc c'est massif. Donc ça me semble assez douteux. Donc il y a du social, mais il n'y a certainement pas que ça. Et il y a plein de gens qui travaillent dans le domaine des neurosciences, de la psychologie sociale, sur les préférences, la question des préférences sexuées, l'appétence pour certaines disciplines, pour certains types d'activités, en fait, en fonction des types de cerveau, en fonction de l'exposition notamment à la testostérone in utero. Ça fait partie des hypothèses, c'est pas la seule et certainement pas peut-être pas entièrement convaincante, mais en tout cas c'est un champ d'investigation aujourd'hui en plein travail, et il me semble qu'il faut pouvoir envisager toutes les hypothèses. En tout état de cause, quelle que soit la raison, que ce soit social ou qu'il y ait une part de biologique ou de psychologique profond liée aux préférences, quelle que soit la cause, c'est une tendance lourde. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de filles dans les STEM et ça semble difficile à surmonter, encore une fois, quelle que soit la cause. Et moi, ce qui me semble intéressant à observer, c'est qu'il y a des pays dans lesquels les stéréotypes, justement, sont beaucoup plus forts, peut-être, à l'encontre des femmes, notamment les pays comme l'Arabie Saoudite ou comme l'Iran, d'ailleurs, et où la part des filles qui s'investissent dans ces filières est en fait supérieure aux pays occidentaux où l'égalité est beaucoup plus ancrée dans les mœurs. Donc ça, c'est encore quelque chose qui me fait douter du poids essentiel des
Ouais,
stéréotypes.
c'est troublant comme, ouais,
C'est assez troublant
comme
comme
donnée.
observation. Et l'hypothèse que je formule, je ne suis pas la seule, mais qui me semble assez convaincante, c'est que à côté de, comment dire, à côté des préférences qu'on peut avoir ou ne pas avoir, il y a aussi la question de la nécessité. Et il y a des contextes dans lesquels ce genre de métier peuvent apporter des compétences et une assurance, peut-être, une espèce de sauf-conduit, peut-être, dans la vie, qui permet justement aux femmes, dans des conditions plus défavorables, eh bien, de ne pas avoir un statut trop dominé. C'est-à-dire que si on a des compétences très concrètes, techniques, on peut peut-être espérer avoir un métier à l'extérieur et l'exercer, plus que si on sait juste, je ne sais pas, communiquer, parler, on va te dire, bon, ça, c'est hein, pas très essentiel comme métier, allez, je pense que tu peux faire de la cuisine tout aussi bien. Bref, c'est une hypothèse. Peut-être que la nécessité de gagner sa vie, la nécessité de s'affirmer aussi dans un contexte défavorable peut participer à pousser plus de femmes dans ce genre de filière. Bon. Et il me semble en tout cas qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une période de nécessité. C'est une question de nécessité. À mon avis, il faut envisager ces matières de cette façon. Quant aux solutions, est-ce qu'il faut des quotas? Est-ce qu'il faut des campagnes politiques? Est-ce qu'il faut... C'est une question, encore une fois, très épineuse. Moi, j'ai pas écrit ce livre dans une optique militante, ni dans une optique de proposer des solutions clés en main. Je propose des pistes de réflexion. À chacun de faire sa propre conclusion sur les voies politiques à explorer face à ce phénomène. Moi, je suis très sceptique sur le principe des quotas, surtout dans des domaines qui sont liés à la compétence. Dans des domaines liés aux valeurs, comme la politique, c'est une chose, mais dans des domaines liés à la compétence, c'est un procédé qui me semble assez délétère, y compris pour le respect entre les hommes et les femmes. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il me semble que la sensibilisation des consciences, la conscience de ces liens, la conscience de l'importance de ces filières et de ces choix aujourd'hui pour le monde de demain, ne peut faire que du bien. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes femmes d'aujourd'hui, il me semble qu'il ne peut être que bénéfique pour elles de réfléchir à ces questions, d'essayer d'imaginer le monde qui vient, d'essayer d'imaginer les choix d'activité, de carrière, militantisme ou activité à considérer, et de faire rentrer cette variable dans les paramètres qui vont être les leurs. Et pour ça, oui, la seule chose que je dis en conclusion, c'est que le travail sur les consciences me semble à moi fondamental, c'est-à-dire le travail d'information, la modification du récit aussi. Voilà, il me semble que le récit officiel de l'émancipation des femmes, oui, il devrait être modifié, parce que c'est un récit qui nous endort. À mon sens, il nous endort. Je le dis à un moment donné, les nouvelles féministes qu'on accuse parfois d'être totalitaires, excessives, hystériques, etc. Moi, c'est pas du tout comme ça que je les qualifierais. Moi, je les qualifierais d'insouciantes. Parce qu'il me semble qu'elles se concentrent sur beaucoup de choses accessoires et qu'elles ratent complètement ce qui, moi, me semble essentiel. C'est-à-dire ces dangers-là qui sont, pour moi, vraiment massifs et qu'elles devraient absolument inclure dans leur réflexion.
Bah, tu parles d'un féminisme hors sol aussi. Tiens, d'ailleurs, alors pour ne pas la nommer, et, bon, je pense qu'effectivement, tu as été attaquer sur ce point. Mais récemment, tu as débattu avec Sandrine Rousseau, je pense, à Strasbourg ou ailleurs.
À
Mulhouse, pardon. Oui, dans l'est de la France. Comment ça s'est passé?
Bah, c'était pas vraiment un débat très, parce qu'il y avait 4 intervenantes et c'était par animateur interposé. Mais je suis complètement restée sur ma faim parce que le débat était censé porter sur comment parvenir réellement à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc ça me semblait s'inscrire tout à fait dans mes interrogations. Et je pensais qu'on allait en parler. En fait, l'animatrice plutôt a posé des questions sur il y a beaucoup de violence des hommes contre les femmes, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Donc elles ont passé l'essentiel de leur temps à expliquer comment les hommes sont violents envers les femmes et comment c'est insupportable. Ce qui n'est pas faux, il y a des violences contre les femmes qui existent et c'est vrai qu'il faut lutter contre, mais la question des solutions n'a absolument pas été abordée, ni la question des moyens concrets, ni de... Ça a été très militant en fait comme intervention, donc face à ça j'ai essayé de un petit peu suggérer mon argumentation. Qu'à côté du combat pour les droits, il faudrait essayer de... Ce qui n'a pas du tout plu à Sandrine Rousseau, elle m'a répondu que c'est marrant, c'est une coïncidence sans doute, mais dès qu'il s'agit de relativiser la portée des luttes, comme par hasard, ce sont les luttes des femmes. N'est-ce pas? Il viendrait à l'idée de personne de relativiser les luttes des prolétaires. Et ce à quoi je lui ai répondu que c'est complètement faux. On peut aussi s'interroger sur les conditions matérielles qui ont contribué à la victoire des abolitionnistes aux États-Unis. Parce que le combat entre les esclavagistes et les abolitionnistes n'était pas fait que d'idées. Il y avait aussi des logiques économiques très fortes en jeu. Donc en fait, c'est une question, à mon avis, qu'il faut poser à propos de tout combat et à propos de tout changement social. Il n'y a pas que les luttes et les idées, il y a aussi des soubassements matériels concrets, économiques, technologiques, qui permettent le succès de certaines luttes et pas d'autres.
Ah oui, donc, j'ai une vision du monde assez, pas complètement, mais assez déterministe au sens énergétique, géographique. Alors, on a beaucoup parlé d'énergie ici, mais je recommande un livre, là, comme ça, en passant, qui s'appelle Prisoners of Geography, prisonniers de la géographie, qui discute à quel point l'histoire est façonnée par les fleuves, les déserts, les montagnes, les forêts, les voisins qu'on a. Bon, voilà. C'est,
ouais, mais très bien, ça rappelle Jared Diamond aussi, de l'inégalité entre les sociétés.
Voilà. Oui, Guns, Germs and Steel. Donc, Prisoners of Geography, je l'ai, c'est Tim Marshall. Et effectivement, ça rejoint un peu Guns, Germs and Steel pour dire tous les facteurs un peu géographiques qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Après, bon, peut-être qu'on parle de niveau un peu macro et micro dans un sens et dans l'autre, qui ne s'exclut pas forcément, parce que, effectivement, le fait que des hommes aient, par exemple, des comportements déplacés, voire viols envers les femmes, bon, effectivement, à un moment, il faut plutôt travailler sur ces comportements déplacés et pas dire, non, mais tout ça est géographique, énergétique. Enfin, c'est,
oui, bien
c'est deux échelles quand même un peu différentes qui ne s'excluent pas forcément aussi mutuellement.
Absolument. La seule chose que je vais dire, c'est que ces comportements violents, dans un monde qui deviendra plus violent, ce ne sont pas les petites lois qu'on prend aujourd'hui qui nous en protégeront. En revanche, essayer de rendre le monde de demain pas plus violent ou pas trop davantage violent qu'aujourd'hui, ça, ce serait une action bien placée pour dans ce domaine pour les femmes.
Bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Vera, pour toutes ces explications.
Et merci Cyrus pour les questions.
Bah oui, oh, non, c'était une conversation agréable comme à chaque fois. Et puis je te dis à une prochaine fois.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.